Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Ça va être une émission un peu particulière aujourd'hui parce que nous allons parler de 6 films au minimum. Donc il va falloir qu'on aille très très vite les uns les autres, pas de bavardage et il y aura exceptionnellement pas de bande-annonce. Alors Marie-Noëlle Tronchon, Dominique Borne, Bernard Miglioni, bonjour.
Bonjour,
bonjour Christophe Maury. Allez, nous commençons tout de suite par Dune de Denis Villeneuve. La presse est unanime. Paul Atreides, le héros, est quasiment le messie. Moi je suis sorti au bout de 20 minutes. Je trouve que la confusion entre la mythologie et la christologie, c'est assommant, c'est d'une bêtise affligeante, mais Bernard Miglioni, vous avez adoré.
Adoré, c'est beaucoup dire, mais c'est quand même un très beau spectacle, des costumes impeccables, des vaisseaux remarquables, des combats innombrables, des monstrueux vers des sables composent quand même un spectacle au lustre inattaquable. Et puis vous avez une réalisation dont l'ampleur n'a d'égal que l'ambition qui force la considération. Le personnage du neveu maléfique interprété par Austin Butler, qui était Elvis Presley pour Baz Luhrmann il y a de cela 3 ans, fait ici un retour tout à fait fertile, fécond, parce qu'il relance une dynamique qui est, c'est vrai, parfois hésitante hein, dans le film, et accroît même la tension dynamique. Il y a 2 scènes formidables, la scène dans l'arène, avec un public blafard, et cette chevauchée sur le verre des sables, qui existait déjà dans la version de David Lynch. Eh bien, ces 2 séquences prennent le haut du pavé, par leur âpreté et leur intensité. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine fadeur esthétique. Le personnage interprété par Léa Seydoux est ornemental. Comme je l'avais dit pour le premier épisode, Timothée Chalamet a des traits d'adolescent affable, ce qui fait que lors des scènes de combat, ben, il n'a aucune crédibilité, de même lorsqu'il est censé être un meneur d'hommes. La musique d'Hans Zimmer s'inspire beaucoup de Vangelis et de la composition de Peter Gabriel pour La Dernière Tentation du Christ. Et puis, c'est vrai que c'est haut en couleur, mais ça pâtit d'une emphase pleine d'ardeur à l'origine d'une prégnante lourdeur. Je dirais que pour finir, que cette suite de Dune dans les sables marque à l'évidence le retour du grain blond.
Oui, on pouvait dire aussi sabre éclair.
Ouais. Oui, je n'ai pas dit le sable et le roupillon aussi.
Voilà. Marie-Noëlle, vous avez aimé aussi?
Disons que j'ai un peu plus aimé que la première partie, car d'accord, il faut rappeler que c'est Dune 2. Ouais. Et donc, c'est un peu moins ennuyeux que le premier, parce que la mise en scène est plus nerveuse, plus elliptique. Il y a peut-être plus d'épisodes. Je ne sais pas, je n'ai pas mesuré, mais l'esthétique est un peu moins pub, avec ses grands sables blonds et ses grands ciels bleus. Que tout on n'en peut plus tout de suite, parce qu'ils sont numériquement composés. Il y a des sentiments, il y a des traversées, il y a des... Il se passe des choses, voilà, avec beaucoup de références cinématographiques, de Griffith, Fritz Lang, il y a un peu de Eisenstein, de David Lynch, bien sûr. Voilà, les personnages sont un peu plus substantiels, j'ai trouvé. Et voilà, mais ça reste de la SF mondialisée, une sorte de globi-boulga qui mélange les atrides, la quête du Graal, le péplum biblique.
Il y a un livre, hein, quand même, il y a le livre de Frank Herbert.
Mais, hein. Oui, mais je parle du film et de ce que j'ai vu. Moi, je ne l'ai pas lu, le livre, ça ne me passionnerait pas, ce mélange, je dois dire, comme Christophe, espèce de globi-boulga. Donc, les guerres économiques, la féodalité, c'est une espèce de gros gâteau géopolitique, économico-fabuleux, enfin on ne sait pas trop. Et moi, personnellement, après, je n'en ai pas retiré grand-chose.
Alors, après la SF mondialisée, je vous propose la SF chez les ch'tis, avec un Star Wars chez les ch'tis, pourquoi pas. Les effets spéciaux se mélangent mal à la réalité agricole. De mon point de vue, il s'agit de L'Empire, de Bruno Dumont, avec Lina Koudry, Anna-Maria Bartolomei et Camille Cotin, et naturellement l'ineffable Fabrice Lucchini. Oui. Vous l'avez vu, Dominique?
Ah oui, je l'ai vu, oui.
Et alors?
J'ai été jusqu'à le voir. Et je suis resté jusqu'au bout.
Et vous êtes resté jusqu'au bout.
Oui, oui, oui. Bah, c'est une version déjantée de La Guerre des Étoiles, un petit peu, qui mélange science-fiction, critique sociale, avec un défilé de personnages farfelus, deux filles nues qui ne sont pas forcément nécessaires. Ça, je trouve que c'est un petit peu racoleur. Et il arrive à faire jouer Lina Koudry, qui joue toujours les ingénues. Là, elle est à poil avec une perruque blonde. Bon, ça change un peu. Mais est-ce que ça fait un film? Je ne sais pas. Il y a une fausse qui reste, pour moi, c'est les décors. Il y a celui de la cathédrale ou une basilique. Je ne sais pas où il a filmé ça. Le reste, c'était tourné à Boulogne-sur-Mer, hein, je crois, là, toutes les scènes. Hein, et sur la côte d'Opale. Et puis, il y a une très belle image aussi d'une prairie apaisante avec des chevaux blancs qui traversent. Alors ça, c'est comme des peintures. Ça, j'ai beaucoup apprécié les décors, beaucoup plus que l'histoire qui m'a paru assez absconte. Voilà, moi, c'est une fantaisie absurde, voilà, qui peut tout se permettre. Qui veut démontrer, on ne sait pas très bien ce qu'elle veut démontrer d'ailleurs, sinon que le futur est dans le présent et le présent se noie dans le futur. Il y a peut-être cette idée-là, je ne sais pas. J'ai pas tout suivi là. C'est surtout pour moi un film onirique qui a de bons moments où on peut y voir une parabole aussi entre le combat du bien et du mal. Mais je reste très, très réservé sur ce film. Et puis alors, bien sûr, on a Lucchini qui se défoule comme d'habitude. Là il s'en paye un petit peu plus que d'habitude.
Marie-Noëlle.
Oui, alors là, pour le coup, voilà du jamais vu. Oui. Ça au moins ça a déjà cet intérêt. C'est en effet la guerre des étoiles sur le littoral français du Nord, le space opéra dans le cadre d'un drame paysan, l'affrontement mystique des forces maléfiques et salvatrices dans le monde prosaïque des vies quotidiennes d'aujourd'hui. Donc c'est ce mélange tout à fait détonnant. Le film est fondé sur ces heurts esthétiques et culturels, le télescopage entre les styles, les époques. On voit la chevalerie médiévale, la chevalerie futuriste, en passant par le petit peuple et la gendarmerie de comédie. Il y a un côté septième compagnie, les gendarmes, et un côté fantastique, surnaturel. Tout ça, pourtant, réussit à être plus cohérent qu'on ne pourrait le croire. C'est pas le même Globibulga que Dune.
Oui, parce qu'il est volontaire.
Oui,
c'est pas prétentieux.
C'est pas prétentieux. Voilà. C'est un burlesque. Il joue sur les effets de burlesque, de changement d'échelle, par exemple. C'est le macrocosme, le microcosme, qui sont des effets, des procédés de la fable. Il a trouvé son burlesque très particulier depuis plusieurs films, Bruno Dumont, et qui est au départ un cinéaste assez philosophe. Et là, il y a cette dimension-là, le bien, le mal. Les vaisseaux spatiaux sont formidables, je les ai trouvés. Oui, le vaisseau spatial du bien, si on peut dire, c'est la Sainte-Chapelle, avec des vitraux extraordinaires, étonnants. Et le vaisseau spatial du mal, où trône Fabrice Lucchini, ridicule à souhait, c'est le palais de Versailles, jardin à la française, et au bout des jardins à la française, on a le cosmos, l'étendue de la nuit, etc. Donc il y a une grande maîtrise visuelle. Les paysages, comme le disait Dominique, sont très beaux, très bien filmés, et tout est assez étonnant dans cette espèce de tohu-bohu. Il y a quand même une interrogation intéressante sur la transfiguration du naturel et de l'ordinaire par le surnaturel de l'intérieur. Voilà.
Bernard. Oui, non, moi j'ai quand même trouvé ça d'une singulière sottise, même si c'est vrai qu'il y a une certaine originalité, la rusticité, l'ironique tonalité. Oui, je suis d'accord avec mes camarades pour les décors et des effets spatiaux de bon niveau avec de louables vaisseaux et d'honorables vols sidéraux. On a plaisir à entendre un très joli morceau de Bach, mais dans une version jazzy. chaloupé avec une certaine virtuosité, ça, ça fait plaisir. Mais dissimulé derrière ses intentions drôlatiques, ici l'intrigue n'en reste pas moins squelettique, ruinée par une écriture constamment schématique. Ça se moque un peu de la guerre des étoiles, le bien, le mal, les sabres laser, mais c'est beaucoup plus brouillon. George Lucas peut dormir vraiment sur ses deux oreilles. Et puis, Mel Brooks avait fait 1000 fois plus drôle avec La folle histoire de l'espace, en 87, Spaceballs, les roupettes de l'espace, puisque c'est le titre original, c'était quand même d'un autre niveau, d'autant que les dialogues ici sont souvent sommaires, voire vulgaires. À part les trois acteurs principaux professionnels, j'ai envie de dire, Lina Koudry, Camille Cotin et Fabrice Luchini, l'interprétation est dégingandée, ils envoient leurs répliques trop tôt et répètent même la réplique. Ça arrive quand même 2 à 3 fois dans le film et c'est pas coupé, parce que les acteurs sont approximatifs, notamment 2 jeunes acteurs masculins, et ça, c'est pas coupé et remonté, parce qu'on a l'impression qu'il y a aussi un budget très très limité. Et puis ça s'évertue à parcourir le ciel, mais à force d'exhiber ses ficelles, eh bien ça devient complètement artificiel. Les personnages secondaires, de la grand-mère aux policiers dépassés par les événements, sont totalement valétudinaires, ce qui fait qu'on a l'impression de voir un film vide et avec un ennui qui s'installe. Moi, je dirais pour conclure qu'entre confusion et convulsion triomphe ici le spasme opéra, car en la circonstance, le pire contre-attaque.
Oui, voilà. Alors maintenant, nous allons complètement changer de registre et je vous propose que nous parlions de Satoshi, qui est un film japonais. Un petit garçon qui, à 9 ans, devient aveugle et puis, lorsqu'il grandit encore, à l'âge de 18 ans, il sera sourd. C'est une histoire vraie et c'est un ode à l'amour d'une mère que vous avez particulièrement aimé, Marie-Noëlle Tranchant.
Oui, j'ai trouvé remarquable. C'est un film très linéaire d'un japonais qui s'appelle Junpei Matsumoto. C'est une histoire vraie. On voit au début du film un 1er janvier fêté en famille. Il y a un petit garçon qui a 9 ans avec ses deux frères, les parents. On voit le rituel japonais du 1er janvier, de la nouvelle année. Et puis, le père s'aperçoit que le petit garçon a un problème à l'œil et on va l'emmener bien sûr à l'hôpital, faire tout ce qu'il faut, etc. Malgré ça, il va perdre la vue. Et on suit cette épreuve accompagnée par la mère, qui est vraiment son soutien indéfectible, qui passe des nuits entières à l'hôpital, tant que le père s'occupe des deux autres frères, qui apprend le braille quand elle comprend qu'il va vraiment définitivement devenir aveugle. On traverse cette épreuve avec la famille et Satoshi entre dans une école secondaire. Ensuite, il est brillant, il est intelligent, il est plein de vie, d'intérêt, de curiosité pour tout. Il va aborder les études supérieures et là, à 18 ans, il commence à perdre l'audition. Et cette nouvelle épreuve, la mère la traverse de nouveau avec lui, elle lui apprend un braille tactile qu'elle invente, etc. Et de nouveau, il va la surmonter, mais en passant par un désespoir complet à un moment. Il se voit devenir sourd aveugle, s'éprouve. Et on éprouve tout avec lui, vraiment. Et avec cette mère, oui, c'est vraiment... Et il va devenir le premier professeur d'université sourd aveugle. Bon, c'est vraiment l'amour d'une mère, l'amour que l'on oublie.
Merveilleux. Alors, on va passer maintenant à Une vie de James Hawkes avec tante Anthony Hopkins, s'il vous plaît. On est à Prague en 1938. Un banquier londonien, Nicholas Winton, sauve des enfants juifs, 669 exactement. Et puis, l'histoire sera révélée en 1988 dans le cadre d'une émission de télévision. C'est propre. On passe de 38 à 88, un peu trop souvent, à mon avis. Ça manque un peu de naturel, mais vous allez nous en parler, Dominique.
Oui, non, c'était ça pourrait s'appeler un héros très discret. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de savoir qu'en 1938, c'est au moment où Hitler va, après l'Anschluss, va investir la Tchécoslovaquie, et il prend donc plus de 600 enfants qu'il va faire passer en Angleterre pour les sauver. Et alors on passe, et en effet, c'est un petit peu... c'est un peu elliptique sur les années 30-40, et c'est beaucoup plus étendu sur les années 80. Donc il y a un déséquilibre un petit peu entre les deux, et au fond, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus les années 80. Parce qu'autrement, on pense à Alice Schindler, bon, ça a déjà été fait. Maintenant, il y a Anthony Hopkins, bien sûr, qui remplit l'écran, parce qu'il est... Il a plus de 80 ans, je crois, maintenant.
Et 86.
Oui, oui, c'est ça.
Il ressemble pas mal au vrai.
Oui, oui.
Non,
j'ai pas, non, ah je, bon. je vois pas le vrai. Enfin, après Nixon, Picasso, Hitchcock, bon, bah, il incarne quelqu'un. Non, il aime bien se transformer. Il aime ce genre de rôle de composition.
Nicholas Winton. Voilà.
Mais c'est assez émouvant, mais ce qui est émouvant, c'est les années 80. Alors, c'est le paradoxe du film qui est intéressant, parce que, alors qu'il voudrait faire valoir un petit peu ce qu'il a fait, mais surtout retrouver ses enfants qui sont devenus adultes, il va voir un rédacteur en chef qui n'est pas intéressé par l'histoire. Et c'est une émission populaire de télé-réalité plutôt racoleuse qui va lui offrir...
Et vous savez que c'est une histoire vraie, ça.
Oui, oui, mais ça, c'est pas mal montré. Et c'est, finalement,
c'est très émouvant.
C'est vraiment le plus émouvant du film.
Évidemment.
Parce qu'il est au milieu de gens qui ne connaît pas, et tout le monde se lève, applaudit, il comprend que c'est tous ses enfants qu'il a sauvés. Alors ça, c'est émouvant, et c'est le paradoxe du film, au fond, et la période la plus intéressante. C'est un peu déséquilibré aussi à cause de ça, voilà. Mais c'est la morale un peu paradoxale et émouvante de cette histoire vraie, voilà. Mais c'est prenant, mais un peu déséquilibré, et finalement trop elliptique sur les années 30-40.
Trop sage. Marie-Noël, ouais.
Oui, c'est très classique, très classique, mais j'ai quand même trouvé que c'était un bon montage et que les allées et venues d'une époque à l'autre étaient bien faites, basculées. L'époque de la guerre est quand même passionnante, parce qu'on le voit très vite monter cet énorme transfert d'enfants qu'il faut... enlever à leur famille, donc à Prague, ça c'est des départs douloureux, et puis surtout qu'il faut faire accueillir en Angleterre par des familles, il a fallu faire des appels aux familles volontaires, les prévenir qu'elles auraient des enfants à charge, combien elles pouvaient en prendre, c'est ça, rassembler. C'est un peu l'appel de l'abbé Pierre pour voilà, des enfants sans logis, sans famille, qui débarquent et qu'il faut absolument accueillir. Et ça, c'est quand même formidablement montré. Et puis les gares qui sont ou pleines ou vides parfois, les gares qui sont ces départs déchirants et puis ces arrivées tellement mélancoliques et dans l'inconnu, et la dernière fois le train qui ne part pas, qui n'a pas pu faire partir, et la gare est vide. C'est quand même très parlant, très émouvant, c'est très bien joué. En effet, bon, les femmes sont un peu trop lisses.
Marc Keller, qui est presque méconnaissant.
Les femmes sont, oui, sont très, j'ai trouvé, très... des images lissées qui les rendent pâles et insipides.
Des silhouettes.
Je trouve un peu dommage.
Oui, Bernard, j'ai trouvé ça un peu plus réussi que mes camarades. Hein. Je trouve que
mais moi, je trouve ça très réussi.
Ça me fait plaisir. Vous avez plus... Parce que je trouve que le sujet est quand même très original. Ça n'avait pas été traité dans cette partie-là de l'Europe. Un Anglais qui sauve plus de 660 petits-enfants juifs dans cette partie de l'Europe. Et ça, ce sujet-là, bien sûr, il y a la liste de Schindler. Mais c'est tout à fait différent. Schindler est un Allemand. Là, on a quand même quelque chose qui est tout à fait différent, avec un personnage qui, lui aussi, a réellement existé. Et ça, c'est vrai que cet épisode-là avait été gardé sous silence et est très bien montré grâce à une narration d'abord. Une narration qui, entre fièvre et conviction, on ne s'ennuie jamais, c'est très bien mené. Non. Ce va-et-vient n'est pas discontinu, au contraire, se fait, ça je suis d'accord avec Marie-Noël, se fait avec pas mal de fluidité, et il y a une tonalité, on n'en fait jamais trop. On est dans la dignité et l'éloquence. On est dans la retenue et dans la consistance. On est dans la pudeur et une certaine véracité. Véracité, d'ailleurs, comme cet épisode avec Marc Keller. Moi, j'ai trouvé ce moment particulièrement beau parce qu'on se rend compte que le personnage principal a encore 40 ans après des regrets au sujet de ce 9e train qui a eu tellement de malchance et lui le porte comme une épine dans son cœur, ce 9e train qui n'a jamais pu partir. Et ça, je trouve que cette scène tire son épingle du jeu grâce à sa véracité et à sa sensibilité. Maintenant, les deux épisodes de plateau de télévision sont assez poignants là aussi, mais on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils sont montrés par la bande-annonce ? En tout cas, l'un des deux. Et ça tue l'effet de ce moment qui est si crucial dans le film. Comment est-ce qu'on peut faire de telles erreurs en termes de promotion du film ? En ce qui me concerne, la conclusion m'a laissé sur ma faim. Cet épilogue avait un peu trop effervescent autour de la piscine. Et ça semble presque hors sujet. Et le titre ? Le titre, je ne sais pas si le titre du livre était ce titre-là, mais ça crée une confusion absurde.
On pense à Maupassant.
Bah exactement, avec le roman de Guy de Maupassant. Oui. Et puis une vie, en plus, ça ne rend pas tellement, ça n'éclaire pas tellement la matière du film. En tout cas, Anthony Hopkins interprète ici une sorte de musicien, de soliste du salut, et parce que peut-être qu'il devient d'une certaine manière l'harpiste de Schindler.
Mais oui.
En tout cas, c'est d'une humanité exceptionnelle. Et c'est ça qu'on est nourri vraiment par ce.
Et une tendresse.
Cinquième titre à voir aujourd'hui, il nous reste quelques minutes. Les chèvres. Après les plaideurs, où Racine se moquait d'un juge capable de juger un chien qui avait mangé un poulet, et bien ici, Maître Pompignac, incarné par Danny Boone, va défendre une chèvre. C'est un peu lourd, non ?
Oui. Le résumé est long ou le film est trop court ? Non, bah c'est une grosse farce, voilà, garantie d'époque, on est au XVIIe siècle.
Joli décor, joli costume.
Oui, Mazarin ne ressemble pas vraiment à Mazarin, on oublie qu'il aimait les chats, on voit quelqu'un qui bouffe des gâteaux à longueur de temps. Enfin, c'est assez gros. Il y a le duo Danny Boone et Jérôme Commandeur, hein, c'est les Laurel et Hardy d'une autre France revue et corrigée. La caricature peut être réussie. Elle est réussie parce qu'elle est basée sur un fait historique, c'est qu'au XVIIe siècle, on jugeait les animaux. Voilà, ça a été le point de départ du film. Mais à partir de là, ça patine un peu, ça part un petit peu, voilà, un peu. Puis il y a une bergère absolument idiote, ravissante, mais assez gnangnan. Il y a des longueurs, parce qu'on n'arrive pas toujours à aller au bout de l'histoire. Et c'est une histoire qu'on... L'histoire de France est vue un petit peu au pas de course, mais en boitillant, quoi. Il y a quelque chose qui cloche. Alors, si on apprend l'histoire aux jeunes avec un film comme ça, c'est un petit peu triste, tout de même. Voilà.
Mais ça, si on connaît son histoire de France, on se marre un peu, quand même.
Voilà, bien sûr. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à des films historiques. Bon, bien sûr, ça n'a rien à voir, parce que c'était des faits au Volpone de Tourneur, ou à la Kermesse héroïque de Feder, qui prenait l'histoire à bras-le-corps pour faire des comédies avec des dialogues étincelants et des comédiens. Bon, hier, il y avait Jouvet, il y avait Harry Bord ou des gens comme ça, mais là, on a tout de même, on fait la différence un petit peu avec notre époque qui veut faire des comédies françaises et qui n'arrive pas du tout à la hauteur de celles qu'on faisait il y a 40 ans, 50 ans. Quoi.
Marie-Noëlle.
Les derniers hommes de David Holofernes.
Bernard, vous voulez peut-être parler des chefs ?
Ah oui, pardon.
Non, alors je ne l'ai pas vu, mais dire à entendre Dominique, c'est une comédie qui ne tient pas le bon bouc. Mais,
voilà. Donc Marie-Noëlle, vous allez nous parler des derniers hommes de David Holofernes, avec notamment Nuno Lopez et Guido Caprino. On est en Indochine le 9 mars 45, des légionnaires oubliés qui vont lutter contre l'armée japonaise.
Et qui vont surtout essayer de traverser la forêt tropicale pour arriver en Chine, si c'est possible. Ils sont chassés de leur campement, qui est en fait un camp de repos et de désintoxication pour ceux qui sont ou blessés ou alcooliques, car il y en a beaucoup. Et c'est une poignée de légionnaires qu'on va suivre dans ce périple mortel dans la forêt tropicale. Après ce coup de force du 9 mars 45, et le film est tiré d'une histoire vraie et d'un roman qui s'appelle Les Chiens jaunes, et c'était la dernière production de Jacques Perrin, qui lui tenait beaucoup à cœur, parce que évidemment c'est un écho antérieur, si on peut dire ça, d'un écho à la 317e session.
Donc à voir.
La première, oui, oui, c'est très âpre, très fort, mais avec de beaux paysages de forêt aussi.
Merci, puis, merci à tous les trois. Vous avez réussi à parler de 6 films en une émission. Merci Marie-Noël Tranchant, Dominique Bande et Bernard Miglioni. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler des films à voir, C'est promis, et 3. Et on reprendra et on pourra écouter les bandes annonces pour nous mettre dans les ambiances. Allez, demain c'est jeudi, avec Jean-François Roth, je recevrai Benoît Tsignetti pour son livre sur Lazare, publié au Cerf. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse.